Fait que présentement à Saint-Liboire, ici Jean-Sébastien Roy, alias John, accompagné de l'homme au plein de mots, Alexandre Brodeur, et l'homme le plus rapide de tout le site de l'Expo Champ, Danick Sylvestre. On est présentement à l'Expo Champ, voici Fondrant.
Fondrant remercie ses partenaires. Faneuf Équipement Agricole, c'est une grande famille comptant 8 succursales au Québec. Un partenaire engagé qui vous aidera peu importe l'âge ou la couleur de votre machine. Après tout, c'est votre croissance agricole qui compte. Les équipements Lapierre, c'est avant tout une riche expérience acquise depuis plus de 3 générations d'acériculteurs. Animé par une grande passion et un désir profond de faire évoluer l'industrie dans le plus grand respect de la nature. Construction des Landes, qui réalise des projets agricoles, commerciaux et résidentiels. Pour un projet clé en main, livré à la date demandée, ça vous prend Construction des Landes. Ainsi que la boutique Rollback, où vous trouverez les produits à l'effigie de Fondrant. Fondrant est disponible sur YouTube, Patreon et Spotify, pour l'écouter assis tranquillement dans ta voiture ou ton tracteur. Bonne écoute!
Salut les gars!
Salut, salut!
Salut.
Comment ils vont?
Ça va bien?
Pas trop stressé?
Un peu, hein? Oh non, c'est pas super.
Alors, mais on va se déjeuner, on va casser la glace, puis ça va y aller. On a des bons invités aujourd'hui, fait que ça va être le fun.
Ça va bien aller.
Fait que, salut tout le monde. Bonjour à nos spectateurs. Vraiment très apprécié que vous soyez là. Vous répondez à l'appel, c'est vraiment cool. Fait que, merci d'être là. Puis en plus, ben, on a une belle journée pour l'Expo Champ.
Ah oui, il fait beau.
Il fait beau. On en profite quand il fait beau à l'Expo Champ.
Exact. Une belle température.
Ouais.
Pas trop chaud, pas trop frais.
Ouais, exact. On est en coton ouaté ou en t-shirt. Je pense qu'il va avoir chaud en coton ouaté, mais on va le prendre pareil. Mais ouais, parce que dans le fond, on a été invités à venir faire un podcast live devant un public par les organisateurs de l'Expo Champ, Ariane, avec qui que je fais souvent affaire. Dans le fond, la salue. C'est grâce à elle qu'on est là aujourd'hui. Fait qu'on la remercie beaucoup. Pour les 25 ans, justement, de l'Expo Champ, 25 ans, ça va vite.
Ouais.
On était jeunes quand ça a commencé. On avait 3 ans, mais on vient depuis qu'on est tout jeune, tu sais. Fait que non, c'est bon de célébrer ça. Il y a eu des belles thématiques aussi. Je pense que la première journée, c'était à propos de les femmes en agriculture. La deuxième, la thématique, c'était les experts au champ, c'est ça. Les experts au champ. Puis aujourd'hui, c'est la thématique, c'est la relève agricole. C'est pour ça qu'on a été invités. On n'est pas encore assez vieux pour être tossé puis se faire mettre de
côté. On est encore classé là-dedans.
Il nous reste encore un bon 10 ans pour être dans la relève.
Ouais, c'est ça.
Fait que, bon, ben aujourd'hui, on reçoit qui comme invité?
On va recevoir le DG de l'Expo Champ, David Messier. Puis après ça, on va recevoir Paul Caplette et Isabelle Foisy qui vont venir nous jaser un peu.
Ouais, ça va être super intéressant.
Yes.
J'ai hâte de les recevoir. On va discuter. On a 2 heures, là. On va jaser en masse, là.
Ouais, c'est ça. On a du temps.
On va manquer d'eau puis on va manquer de bière, d'après moi, c'est à la table.
On va s'en refaire servir.
Ouais, c'est ça, Ben, il va nous servir. Ouais, fait que, dans le fond... ben, comme d'habitude, Dan, on boit quoi?
On va boire de la Fondrant encore aujourd'hui.
Ouais, hein?
Ouais. Puis ceux qui sont sur place, on a une dégustation gratuite. Ben va vous servir ça.
Ouais.
Goûtez à notre bonne bière. La Fondrant, commandité par École des Cantons, brassée par Onze-Comté. Très bonne, comme d'habitude.
On rouvre ça?
On rouvre ça.
Oui, moi, déjà, ouvert, vous êtes d'avance. Ça. Santé tout le monde. Fait que c'est ça, les 25 ans... cette année, c'était quand même une belle édition. Hein?
Ouais, ouais, mais moi, j'aurais pas fait ça de même ici, pour vrai, j'aurais tout... j'aurais pas fait ça de même.
Non.
Non.
Puis mettons là, que t'avais le DG là, de l'Expo Champ en pleine face. Là. C'est quoi tu dirais?
Ben,
David Messier, tout le monde!
Oh, je prends la place.
Ouais, tu prends
la place du chef.
C'est ça.
Merci.
C'est tout le chef à cette heure.
Mais je suis bien curieux. Justement, si t'avais fait ça différemment, t'aurais fait ça comment?
Je l'aurais pas fait.
Ah non, c'est quelque chose d'organiser tout ça quand même, là.
Puis je l'ai remarqué encore plus quand on était venu, peut-être une dizaine de jours, tu
ouais.
as fait une vidéo, tu étais au champ, puis on voyait que c'était vraiment le champ, tu sais.
Ouais.
Ouais, on voyait aucunement les chapiteaux, ou on voyait les parcelles, bien sûr, tu sais, mais il manquait tout ce qui était équipement là, sur le terrain, tu sais. Fait qu'on voit qu'en seulement une semaine, la terre se transforme en un véritable événement, là, t'sais, avec des milliers de personnes qui le visitent, plusieurs exposants, la technologie, la variété dans les équipements. Fait que, Oui. Puis en plus, ben la météo s'est invitée dans la logistique la semaine dernière, dans les c'est plus ça. Grosses journées du montage. Donc, ouais, oui, ça a été un défi, mais on est là. Ça fait 25 ans que ça existe, puis on a bien envie de continuer pour au minimum 25 ans.
C'est bon, ça. C'est un bel objectif.
Ouais. Surtout que là, vous allez peut-être avoir quitté la relève, par contre. Ouais, 25 ans, on va vous réinviter dans le cadre d'un autre thématique.
Ouais, ben, ouais. Exact. C'est parfait. Ça, on va le prendre. Dans le fond, pour les auditeurs, ceux qui ne connaissent pas, tu veux te présenter un peu?
Oui, ben moi, je suis David Messier, c'est ça, directeur général de la Société d'agriculture de Saint-Hyacinthe. Dans nos activités, on a évidemment Expo Champs, mais on a aussi le Salon de l'agriculture qu'on présente dans nos pavillons à Saint-Hyacinthe en janvier. Donc, on avait eu l'occasion de vous recevoir aussi là, dans notre édition 2024. On est aussi promoteur organisateur de l'Expo agricole de Saint-Hyacinthe. Donc, on tient dans les vacances de la construction, puis d'un championnat provincial au niveau des bovins laitiers qu'on appelle le suprême laitier. Donc, okay. Ça, c'est la portion, je dirais, agricole. On a un concours de grande culture aussi là, sur le territoire de la Montérégie-Est. Et également, je parlais des pavillons là, où on organise notre salon. Bien, c'est aussi des pavillons qui appartiennent à la société, qui sont loués, okay. Soit pour des activités de touristes d'affaires, ou sinon, c'est des activités sportives. On okay. a un centre de soccer intérieur. Donc, je dirais que la société avec Espace Saint-Hyacinthe, ça roule 365 jours par année.
Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de stocks.
Ouais.
Il y a beaucoup
d'événements.
D'événements puis d'organisations, c'est ça que je cherchais.
Exact. Fait que ça prend une bonne équipe. Ouais, on en a nommé quelques-uns tantôt, mais oui, on est bien entouré puis ça permet. Puis, surtout, ce qui est bien important de préciser aussi, c'est la société d'agriculture, bien, c'est administré par des producteurs agricoles. Donc, on a 12 agriculteurs, agricultrices qui composent notre conseil d'administration. T'sais. Fait que quand on fait la planification, soit d'Expo Champs ou du salon, bien évidemment, ça, c'est collé à la réalité, en fait, des agriculteurs, agricultrices, parce que à la tête de l'organisation, c'est des producteurs agricoles. T'sais. Fait que, donc ça, ils sont sur le terrain, ils sont visibles, ils viennent, tu sais, Dominique, le président de comité, André est là aussi ce matin, hier il était là, tu sais, fait qu'il circule vraiment. Donc, ouais, fait que dans le fond, une organisation agricole pour des producteurs agricoles.
25 ans, c'est pas rien. Y a-tu quelque chose de spécial pour souligner ça? Ou...
Bien, on en a profité en ouverture de l'événement pour souligner justement des ambassadeurs, des bâtisseurs de l'événement. Léon Gartin, il y avait André Cécire, il y avait aussi Donald Côté qui était là. Donc, puis après, tu sais, c'est sûr qu'il y a on en a profité en même temps, tu sais, pour souligner ces gens-là, mais se rappeler des bons moments. Tu sais, ils en ont vécu de l'anecdote, ils ont vécu des ouragans, tu sais. Donc, tu sais, c'est quand même le nombre d'années fait que, tu sais, ça, des fois, ça réserve des surprises. Mais c'était surtout l'évolution aussi, tu sais, d'une journée de champ à un événement comme aujourd'hui, là, tu sais. C'est là que un changement de site, ça a commencé au Rapide Plat à Saint-Hyacinthe. Maintenant, c'est ici depuis une vingtaine d'années. Donc, ouais, c'est intéressant de se rappeler ça avec eux, puis d'entendre les anecdotes, là, tu sais, qu'ils pouvaient raconter. Puis des fois, on se dit, OK, ouais, on comprend.
Il y a du véhicule.
Ouais, exact.
C'est sûr, c'est un défi de faire un événement à ciel ouvert comme ça.
Ah, ouais.
Tu joues avec la météo et tout ça.
Puis, tu sais, c'est une réalité que vous vivez au quotidien, vous autres aussi. Là, les changements climatiques, on n'a pas eu de pluie ici pendant, je dirais, quasiment un mois de temps. Puis, on a eu l'équivalent de la pluie de l'été en 3 jours. T'sais. Fait qu'après ça, Fait que ce que vous vivez au champ, mais on le vit un peu ici aussi, là, tu sais, accentué par là, ben, toute la grande machinerie qui est rentrée, tu sais, fait que ça a testé le terrain pas pire. Puis on se disait, bon, cette année, c'est l'année qui va faire beau, tu sais, parce que l'année dernière aussi, on avait eu une journée on dirait que c'est toujours le mercredi, en plus, que ça donnait, là, tu sais. Fait que, mais là, vous êtes là aujourd'hui, il fait super beau, fait que l'année prochaine aussi, je pense qu'on va vous inviter 3 jours, la température parfaite pour l'Expo Champs aujourd'hui.
Là, on va manquer de préparation, on va être brûlé avant.
En autant qu'on manque pas de la
ouais,
fondant, le reste, ça va être
correct.
C'est la mienne, ça? J'ai-tu le droit de boire sa job? Ouais, juste être sûr,
je pense que c'est toi qui décides, hein?
Les patrons, mes administrateurs, il faut quand même qu'ils approuvent. Je suis correct. Dominique a dit oui.
OK, c'est bon, parfait. Merci, Dominique.
Tu nous as parlé un peu, la Société de l'agriculture, c'est quoi son rôle?
Bien, la Société d'agriculture, ça existe depuis près de 200 ans. On a célébré cette année, en fait, l'Expo agricole, c'est la 187e édition. Donc, depuis 1837, la société est au service des agriculteurs, justement. T'sais. Évidemment, ça a beaucoup changé avec le temps, les besoins, la réalité, ça évolue. Donc, c'est certain qu'en ce moment, c'est beaucoup rattaché à l'aspect événementiel. On crée le rendez-vous. Quand on est à l'expo agricole, ben là, c'est le rendez-vous du producteur avec le grand public. Le lien, avant, on avait quelqu'un, un membre de la famille ou un ami proche qui était en agriculture. Aujourd'hui, la réalité est différente. Fait un événement comme l'expo est important pour garder le lien. On reçoit des gens de Montréal, on reçoit des gens très urbains. Puis la vache est juste là, puis le producteur est juste assis à côté. Fait qu'il peut très bien témoigner de sa réalité, comment ça se passe. Ça, c'est une Jersey à côté d'une Holstein. La différence, une Holstein rouge, une Holstein noire. Il y a tout un... Fait que ça, de ce côté-là, on a recentralisé beaucoup d'activités agricoles. T'sais, on veut que ça soit ludique, on veut que ça soit éducatif. On est dans une période de vacances, il faut que les enfants s'amusent, mais d'un autre côté, on est là pour leur faire aimer ou apprécier l'agriculture aussi. Puis qu'il y ait le goût après, non seulement de s'y intéresser, mais à la maison, ben whoop, est-ce qu'ils vont, je sais pas moi, avoir un faire pousser un peu de légumes ou c'est le lien, en fait. Ça, c'est la portion vraiment grand public de l'expo. Puis après, ben c'est vraiment au niveau service avec le rendez-vous. Comme là, bon, mais on attire un producteur agricole, il y a une entreprise qui est là pour proposer ses équipements ou ses services. Puis ça, c'est une chose. Puis là, maintenant, bien, on veut continuer à développer davantage l'impact, que les gens fassent le lien. OK, bien, la société, elle m'a apporté ça. Puis là, on met un plan là, pour continuer, en fait, de dire, bon, bien, oui, on a un impact depuis 187 ans. Maintenant, c'est quoi le prochain?
Oui, c'est ça. C'est de continuer tout le temps
à ce que ça soit collé, là, tu sais, aussi, que vous y voyez une valeur ajoutée, tu sais. Puis, je vous, parce que vous êtes des producteurs agricoles, tu sais, puis futurs membres de Rouville, en plus, là, parce que j'ai su à travers les branches, là, mais, tu sais.
Dominique travaille fort.
Il travaille fort, ouais, hein, ouais. C'est ça. Fait que, puis qu'après ça, ben, tu sais, que vous voyez ce que la société d'agriculture fait, puis vous ayez le goût de vous impliquer. Puis là, ben, la roue tourne, puis, c'est ça. Fait qu'on sait là qu'on, c'est vers là qu'on s'en va.
Une organisation importante pour promouvoir l'agriculture puis connecter le monde puis
ouais puis tu sais Saint-Hyacinthe c'est la Technopole agroalimentaire, tu sais c'est la seule au Québec aussi, tu sais fait que évidemment le lien le fit est parfait là, tu sais donc fait agri agro, tu sais comment qu'on peut vraiment être là, c'est ce qu'on on a refait notre planification stratégique, tu sais fait qu'on est là-dedans là.
Super. Puis nous autres à Fondrant, on aime ça avoir des scoops de temps en temps. Le futur pour l'expo champ, on s'en va où?
Ben c'est drôle que tu poses la question, parce que notre bail finit à échéance l'année prochaine. Fait qu'on est en train justement d'évaluer ça. Qu'est-ce qu'on fait pour l'avenir? T'sais, c'est un grand rendez-vous. On voit que le besoin est là. On voit que... Fait qu'on veut encore plus de technologie. On veut tisser des liens. T'sais, cette année, la zone Actec s'est intégrée à l'événement.
Okay.
Donc, est-ce que ça pourrait permettre éventuellement aussi à des startups de vraiment venir encore plus présenter leurs produits. T'sais, souvent, ils ont quelque chose de super intéressant. L'opportunité maintenant de le démontrer, ben Expo Champ pourrait être une plateforme parfaite pour ça. On parle de démonstration aussi, mais là, on en a 3 cette année. On aimerait ça en avoir plus. La relève est importante. T'sais. On veut continuer d'être attrayant. T'sais, on le sait, c'est quoi, là? On s'en parlait hier, pour que vous soyez présent à Expo Champ, ben, vous avez sûrement travaillé plus fort hier, avant-hier. Vous allez travailler plus fort demain aussi, là, à la ferme ou dans vos champs pour réussir à trouver le temps de venir ici. Mais il faut que la visite, elle soit payante, entre guillemets, là. T'sais, faut que tu y vois, tu dis, OK, non seulement j'ai vu du monde, ouais, c'était cool de revoir, mettons, des gens que j'avais pas vus depuis longtemps. Mais après ça, quand je reviens dans ma production, tu sais, j'ai acquis quelque chose à Expo Champ, là, tu sais, au salon, puis le salon l'hiver, c'est le même objectif.
Ah, c'est bon. Fait que là, tu ferais-tu ça différemment?
Ben, je vais le laisser. Je pense qu'il est à bonne place.
Ben, tu sais, on a un comité consultatif. Fait que si jamais tu as du temps, tu sais, des fois en tracteur, là, ça nous aide à réfléchir, là. Fait que ça peut. Sait-on jamais.
On va penser à ça.
C'est bon. Ça, ouais.
Super. Merci beaucoup, David.
Hey, merci, les gars. Merci de l'invitation. Yes. Merci à tout le monde d'être là, à tous les exposants aussi. C'est vraiment apprécié. Fait qu'on, il nous reste une bonne après-midi là, pour compléter la 25e édition. Fait que, on a hâte de vous revoir l'année prochaine.
Super. Ça prend les exposants pour faire l'expo chair.
À plein ça. Ça prend des votes des visiteurs après.
Ouais, ouais
exact. Merci.
Merci.
Je peux partir
ben
avec?
Oui, ben
ouais,
oui.
Parfait.
Donc là, c'était intéressant.
Ouais.
C'est quand même toute qu'une job, l'organisation de ça, pareil. Puis, tu sais, il s'occupe de l'expo agricole à Saint-Hyacinthe, qui est là, pas tant long que ça. Puis, il faut tout de suite qu'il prépare l'expo champ. C'est quand même c'est une grosse job là, pour les organisateurs de ça.
Il n'est pas tout seul, puis il l'a dit qu'il y avait de l'aide. Puis,
ça prend une équipe.
Ça l'apprend.
Oui, vraiment.
Non, puis, juste le site ici, là, tu sais, il l'a dit un peu, là, tout. C'est 3 jours dans l'année, mais il y a de la préparation en arrière de ça. Ah, ouais. C'est ce qu'on voit pas tout le temps, mais c'est un méchant beau site.
Tout que de l'ouvrage.
Ouais.
Donc, on est prêt à accueillir nos 2 invités pour le restant de l'épisode?
T'es prêt, Dan?
Je pense que oui.
Fait que on va accueillir Paul Caplette et Isabelle Fozzi.
Ben, bonjour à vous deux.
Bonjour Jean-Sébastien, bonjour Danick, bonjour Alexandre.
Bonjour, bonjour.
Bonjour les gars.
Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. C'est vraiment apprécié, ça va être super intéressant.
Oui.
Ben merci à vous.
En partant, ben là, si vous voulez vous présenter à tour de rôle, Isabelle, si tu veux te présenter.
Isabelle Foisy, à l'aube de ma début de cinquantaine, maman de 2 enfants qui sont ici avec moi aujourd'hui, Virginie et Frédéric, qui ont repris la ferme d'une façon un petit peu tragique cet hiver parce qu'au suite au décès de leur père. Puis c'est ça, dans le fond, j'ai démarré mon entreprise cet hiver en accompagnement de transfert puis coaching. Fait que c'est juste je me présente, mais tu l'as pas, tu dises toutes mes origines. Alors, ça, c'est dans l'autre partie.
C'est ça.
C'est bon.
Une question à la fois, on va y aller. Fait que Paul?
Ben Paul Caplette, je suis agriculteur depuis pas mal longtemps. j'ai fait partie de la relève... très jeune, j'ai même participé à la fondation. Dans le temps, quand on a commencé, il n'y avait pas de relève. On a même parti la relève à l'époque, fin des années 70. Là. Fait que je suis agriculteur, surtout spécialisé en production végétale. Avec mon frère, on est associé, je pense, depuis qu'on est né. On est ensemble depuis le départ, accompagné de ma mère, là, qui c'est elle qui tenait les rênes le temps qu'on était trop tannant avant de nous laisser lousse là, sur la ferme. Fait que ça a été un processus là, qui a été... démarré immédiatement, comme je comptais tantôt, j'étais à l'ITA à Saint-Hyacinthe. Déjà à l'époque, tu sais, tu avais beau avoir 15-16 ans, mais on avait, nous autres, notre père n'était pas là, fait qu'on se trouvait quand même déjà opportuniste, puis dire, ben, on est déjà des agriculteurs, fait qu'à l'école, on revenait à la ferme, puis j'ai campé un peu là-bas, fait qu'on a parti à la ferme comme ça, puis on l'a développé au fil des années. Au départ, dans les. Vraiment, production végétale sur des petites surfaces, parce qu'on n'avait quand même pas une grande ferme. Fait que c'était des cornichons qu'on a fait longtemps, quasiment 15 ans de temps. C'était mon projet d'étudiant à l'ITA quand je suis sorti de là pour aller chercher des meilleurs revenus à l'hectare en faisant quelque chose qui était dans la, entre guillemets, dans le temps qu'on ne faisait pas de couverts végétaux, mais la période mer morte, c'était le mois de juillet août. Fait que ça faisait que le trou de l'été, on était capable de faire des revenus comme ça. Fait qu'on a monté la ferme jusqu'à aujourd'hui, une ferme aujourd'hui de 360 hectares avec mon frère, quelques employés saisonniers qui viennent nous aider, là. On est reconnu pour avoir pas mal d'innovations sur la ferme au fil du temps. On va pouvoir en discuter tantôt, là, mais on arrive à l'âge où est-ce que notre ferme est à maturité, puis qu'on est justement en train de penser à comment on va être capable de transférer parce que c'est un privilège d'être agriculteur, encore plus aujourd'hui, d'avoir la chance d'être agriculteur. La chance et le défi, parce que c'est une grosse responsabilité, mais on est en processus de réflexion pour trouver une façon. On va être capable de transférer à une future relève qui va pouvoir faire ce qu'ils veulent bien faire avec ces 360 hectares.
C'est bon. Isabelle, toi, ton parcours en agriculture, ça regarde comment?
Hein, on a-tu 2 heures pour enregistrer le podcast?
On a 2 heures, mais...
J'ai un parcours plus sinueux que mon ami Paul, parce que j'ai connu différentes étapes dans ma vie. Mais dans le fond, je suis née d'un agriculteur et agricultrice qui grandit à Saint-Hyacinthe, une ferme laitière, grande culture, avicole.
OK.
J'ai fait mon cours à l'ITA en zootechnologie, maintenant technique de production animale, fait que ça donne une idée de mon âge. Fait que, finissante en 1995, après, j'ai été longtemps expert conseil dans les coopératives. Mon premier amour, c'était le laitier, fait que, tu sais, à l'époque, sur la ferme laitière, je faisais déjà un petit peu d'exposition, les jeunes ruraux, mais... tranquillement, mon amour au niveau de la technique s'est transformé vers l'aviculture parce que j'ai eu moi-même ma propre ferme avicole en 99. Puis j'ai fait ça quand même plusieurs années, expert conseil. 99, premier achat de quota au niveau avicole. 2001, Je tombe actionnaire avec le père de mes enfants d'une ferme de grande culture et de production avicole à la présentation. Okay. Fait que l'aventure de l'entrepreneuriat commence. Bon, très vite, la ferme apprend beaucoup d'expansion. Fait que j'étais comme plus capable de rallier le travail à temps partiel à l'extérieur puis faire la gestion de la ferme. Fait que, tu sais, moi, ça à la ferme, je m'occupais surtout de la production avicole et de la gestion des employés.
Okay.
Et ben là, on est en zone intime, on n'est pas beaucoup de monde ici. Fait que j'ai dit, je vais ouvrir mon jeu, j'ouvrais. Tu sais, je travaille en coaching agricole, puis on sait que la détresse, il y en a sur les fermes. Fait ouais. que, bref, la ferme prend de l'expansion, ça grossit rapidement. Je m'oublie un peu là-dedans. J'écoutais Mme Barrette cette semaine, puis elle demandait, ben c'est quoi votre passion? Si elle m'aurait demandé ça en 2015-2016, certainement, j'en avais pas de passion.
Okay. Avait...
Fait que, burn-out, dépression, on dit le mot. Faut pas avoir peur. 33% des gens vont en vivre d'une forme que ce soit, de la détresse. Et puis, séparation du père de mes enfants. Je revends mes actions. Fait que là, oups, je tombe à 42 ans, plus entrepreneur. Je travaille plus à l'extérieur. Il faut que je retourne sur le marché du travail. Là. Puis là, ben écoute, j'ai découvert le financement. J'ai travaillé quelques années en financement pour deux institutions financières. J'ai adoré ça, mais il vient comme une crise intérieure que je me dis, là, jouer de la détresse, c'est ferme, tu sais, on a des confidences de producteurs, puis là, je me dis, hey, qu'est-ce que je peux faire pour en faire plus? Il me semble que je suis pas sur ma mission de vie, là. Je me cherche, tu sais. Fait que l'automne passé, puis tu sais, ça faisait déjà plusieurs années que je m'intéressais au coaching agricole, que je suivais une coach dans l'Ouest, puis que j'étais très intéressée par tout ce que Mme Desrosiers faisait. Fait que je retourne aux études. Je lâche le financement agricole, je retourne aux études faire une formation de coaching de leadership puis un certificat de transfert d'entreprise et me voilà, là, je repars agri-réussite. Mais c'est ça, j'ai un parcours sinueux en agriculture, mais ça fait mon bagage parce que, sincèrement, j'aurais pas fait cette job-là à 25 ans sortant de l'école.
Ouais,
là,
ouais, ouais.
Fait que ça m'a permis de connaître plein de gens puis d'avoir plein d'expériences de vie aussi.
C'est sûr, comme tu disais, quand tu étais dans le côté finance, il y a une grosse partie de la détresse, c'est quand les finances vont pas bien puis toute l'entreprise va mal. Fait que tu en as vu des situations probablement que...
Effectivement. Puis tu sais, quand tu ton directeur de compte, tu as quand même une relation privilégiée avec. Parce que veux pas, il va voir tes états financiers. Il est au courant de ce qui se passe de toute sa firme. Fait que tu sais, là, tu le vois, là, la personne, elle va parler de son divorce, elle va te parler que ça va pas bien. Elle avait de la souffrance, puis là, t'es comme, OK, t'es dans ton rôle de créancier, mais là, moi, je revenais le soir chez nous, puis je me disais, hey, comment je peux faire? Puis, tu sais, moi aussi, à travers ça, j'ai passé par là, comme humain. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour notre agriculture, puis que, tu sais, les fermes aillent mieux, tu sais. Fait que c'est de là mon inspiration d'aller en coach agricole.
C'est bon, ça?
Oui.
Paul, pour mettre en situation un peu, on entend, tu sais, tu fais des articles un peu, on entend parler beaucoup de toi. C'est quoi les pratiques culturelles sur la ferme chez vous que tu essaies de mettre en pratique, d'évoluer, dans le fond?
Ah, ça a évolué énormément, là, on peut dire, là, dans les 40 dernières années, mais présentement, au fil du temps, on a commencé, on a tout le temps été assez un petit peu avant-gardiste à ce niveau-là, au niveau du travail réduit, etc. Au départ, on l'avait fait peut-être pour les mauvaises raisons, dans les années 80, avant 90. Puis à un moment donné, ça ne marchait pas. On a reculé, on a recommencé parce qu'on se disait que c'était une façon de produire différemment. Mais nos sols n'étaient pas encore, entre guillemets, à coche, tout le drainage pas tout fini, etc. Fait qu'on a recommencé graduellement, mais d'une autre façon. Fait qu'aujourd'hui, la ferme, c'est vraiment 85 % des... On n'est pas trop religieux. Fait que c'est rare qu'on ait 100 % tout sur un bord puis tout sur l'autre, là. On est 85 % en travail semi-direct, en mode semi-direct. Il y a un 15 % qui est travaillé de façon travail léger, qu'on appelle là, chisel ou même travail en surface. Là. Mais c'est tout le côté aussi qu'on a... La grande différence, c'est que ce travail-là, pour que ça réussisse bien, c'était qu'à un moment donné, on a à la fin des années 90, on voyait nos coûts de production qui augmentaient tout le temps, puis le prix des grains qui restait à peu près encore pareil dans cette époque-là, puis on se disait comment est-ce qu'on va faire pour augmenter notre capacité de nourrir, de se nourrir nous autres, puis d'avoir une rentabilité assez forte pour avoir une ferme qui est performante. Puis on avait réalisé qu'il fallait en sortir plus, oui, mais en dépensant moins. Fait qu'on s'est dit, en allant avec les travails réduits, bon, on va faire travailler les vers de terre, il n'y a pas moins des faits venus du Mexique payer des visas. Là. On va être capable de travailler moins le sol, puis de se servir de cette force-là. Tu sais, on a... Ce qui nous a amené là aussi, il faut dire qu'au départ, quand on a commencé avec notre mère, on avait vraiment une petite ferme avec un hangar de 40 par 80 avec une grange à défaire puis pas d'autre chose. Un tracteur au gaz, 65 HP, pas de câble.
Yes.
Fait que quand j'étais allé à l'ITA, moi, c'était ça mon beat. Puis là, je jasais avec mes chums qui avaient une batteuse John Deere puis un 44-40 John Deere du temps. Puis, tu sais, nous autres, on partait là. Fait qu'en partant, on a eu un départ où est-ce qu'on a dû aller chercher toutes les ressources qu'on avait, autant de compétences humaines que ce qu'on pouvait faire avec notre ferme avec le minimum. Fait que ça allait un peu guider tout le cheminement de la ferme, tout le temps y aller avec ma fameuse Gertrude et mes équipements qu'on utilise longtemps, c'est de se dire, ben on va agir différemment. Au lieu de semer tout du maïs en deux semaines parce que ça presse pour avoir un semoir de 16 rames, on va avoir plusieurs cultures. Fait que ces cultures-là vont s'intercaler. Tu sais, comme le blé d'automne, maintenant, on a 30 %, ça se sème la semaine prochaine.
Ouais. Ouais.
Fait que c'est un kit avec un tracteur de 155 HP, rendu printemps prochain, mais il me reste juste 66 % à semer. En faisant différentes cultures, ben ça nous fait toutes des fenêtres qu'on peut juger spécifiques à chacune des cultures, puis que ça fait durer l'utilisation du même équipement. Fait que ce qui fait que le système aujourd'hui, ben c'est 8 cultures, c'est... Le rôle qu'on a, qu'on est capable avec les cultures de couverture, aller chercher des retours d'azote pour mettre moins d'azote minéral parce que ça coûte moins cher, ça nous emmène à une certaine rentabilité. Puis en même temps, ça nous emmène des émissions de gaz à effet de serre qui sont plus basses. Puis c'est un peu ça qui fait que la ferme aujourd'hui, tu sais, ça s'est fait sur 20 ans, juste petit pas par petit pas. C'était pas l'objectif. C'était pas un objectif de, en 99, de dire, là, nous autres, là, on va réduire les gaz à effet de serre puis on va arrêter de polluer. C'était même pas dire polluer, c'était juste une question de vision. Fait que ça nous a emmené aujourd'hui avec un système qui est 155 HP, c'est 360 hectares. Le tracteur faisait 800 heures dans l'époque quand était conventionnel. Il en fait 250 pour lui donner des jobs de plus.
Ouais.
Vous voyez un peu le setup que ça nous a emmené. Le hic, c'est que faire un système comme ça, ça nous oblige à être dans le champ beaucoup plus toute la saison. Fait que souvent, je vais me faire dire, bien, même ma blonde va me le dire, vous êtes tout le temps dans le champ. C'est ma job tout à l'heure, elle parlait de ses ambitions, ses goûts, comment est-ce qu'elle se voyait dans le futur, mais on est des gars de champ. Fait que je suis posé d'être dans le champ l'été, je ne suis pas supposé de faire ça en Winnebago. J'aimerais ça avoir une semaine, une fois de temps en temps, plus souvent, là, mais ouais. C'est un peu dans cette. En général, grossièrement, c'est un peu le genre de pratique qu'on fait pour utiliser au maximum tout ce qu'on a comme machine en même temps, qu'est-ce qui se passe entre nos deux oreilles.
Ouais, c'est ça.
Ben, c'est sûr. Ça peut être tentant, des fois aussi, là, au mois de juillet, quand il se passe pas grand-chose, partir en vacances, puis pas deux semaines. À comparer, mettons, du monde qui a la position animale, ben, t'as tout le temps les deux mains dedans, t'as pas le choix d'être à la ferme, mais en grande culture. Des fois, tu dis, bon, ben, qui arrive n'importe quoi, qui mouille pas, qui mouille, j'ai pas de pouvoir là-dessus, fait que on se revoit à l'automne, puis.
Ben, c'était une opportunité qu'on avait à l'époque, qu'on avait moins de culture, puis des fois, on se dit, t'as bien le temps. On avait un trou, là. On était capable de faire ça, mais le fait de faire ces nouvelles techniques-là nous emmène à être plus... Je pense que ça va, avec le temps, plus que les frais reliés au pétrole vont être importants, plus ces façons d'aménager-là vont devenir de plus en plus, mettons, là, présentement, on défriche, puis on dit que ça va bien, mais ça va devenir un incontournable dans le futur avec les changements climatiques, avec la pression sur le coût des pétroles. Fait que les inputs au niveau de la ferme, il va falloir être obligé de les produire avec nos semis de couverts végétaux, ouais. Avec nos rotations puis les séquences de culture. C'est de même qu'on voit ça beaucoup, le côté agriculture là, du futur. C'est vraiment, va falloir tout le temps tenir compte de la ressource parce qu'elle va devenir de plus en plus dispendieuse, de plus en plus rare. Puis même, des fois, à la limite, tu sais, dans le cas des pesticides, des fois, on a de besoin, on n'arrête pas de le dire, mais c'est souvent contesté.
Ouais.
Fait qu'on ne sait pas comment de temps qu'on va être capable encore de... Fait qu'on se dit, ben aussi bien agir en bon père de famille maintenant, mieux les gérer, mieux les contrôler, meilleure qualité de l'eau, tout ce qui tourne autour de la biodiversité, pour être capable d'avoir une ferme, qu'on dit tout le temps, nous autres, dans le futur, pour nos futurs relèves, ben une ferme qui est équilibrée au niveau environnemental, tu sais, qui est capable de produire, puis qui est pas un caillou, là, qui est pas en dégradation de sol, qui est en sol qui sont performants, matière organique, etc., ouais. Pour avoir une bonne capacité de produire. C'est l'objectif ultime, là.
C'est d'être proactif puis d'assurer une pérennité pour tes sols. Puis, ouais.
Parce que je pense qu'en 2000, ben, depuis plus que 10 ans, mais aujourd'hui, on peut plus dire ce qu'on faisait dans les années 2000, c'était correct. T'sais, c'était pas nécessairement correct, mais aujourd'hui, on voit l'environnement d'une autre façon. les défis des changements climatiques sont là, on les ressent déjà. Quand on parle, ouais. regarde, tu sais, tantôt, il parlait, là, il a tout eu l'appui de 2 mois en l'espace de 3 jours, exprès ouais, pour son ça. Événement. C'est ça. Quand c'est ta culture qui est dans le champ, tu es dans le jello, là, ça marche plus.
C'est ça, il faut que ton sol soit capable d'absorber ouais. au moins une partie de ça. T'sais, c'est exceptionnel depuis de même, mais quand même, il faut que tu sois prêt à absorber une partie de ça.
En tout cas, le plus possible. Ouais. On pourra pas tout régler, mais au moins, ça va nous donner plus de résilience pour passer au travail, pas être pogné tout le temps à l'assurance récolte. Ou,
c'est, ouais. c'est pas le but, là.
Non. C'est jamais payé à aller chercher de l'assurance récolte.
Non, c'est ça.
C'est quoi tes... Tu as parlé de 8 cultures. C'est quoi tes 8 cultures?
Rapidement, blé d'hiver sur une grande surface, blé de printemps, haricots secs, pois de conserverie, canola... Les traditionnels, maïs, soya. Puis avec nos bandes fleuries, on dépasse le 8. Là. On a des bandes de tournesol pour les pollinisateurs, des bandes de vesse velue qu'on va récolter. Ça, c'est toutes d'autres petites semences, mais on a 8 cultures majeures.
Quand même.
Tu as été récipiendaire d'un prix en 2022, le prix Dave Reed.
Oui.
Tu peux-tu nous expliquer un peu c'est quoi ce prix-là? Puis qu'est-ce qui.
Ah, ça, ils m'ont déculotté. C'est un prix, au niveau canadien. À peu près 1500 inscrits au travail du Canada. Puis nous autres, on était honorés de gagner ce prix-là en 2022 par rapport à toute notre approche là, au niveau des gestions des bandes et des vraines, nos efforts pour les pollinisateurs. Sur la ferme aujourd'hui, on a pratiquement 9 hectares de surface dédiée aux bienfaits écosystémiques. Là, qu'on parle de bandes et des vraines élargies, notre oasis de biodiversité, toutes ces choses-là, quand ça s'additionne, ça représente pratiquement 9 hectares. Fait que c'était une belle tape dans le dos, puis ça nous a donné le goût de continuer aussi. On a eu un autre prix aussi avec Desjardins, là. C'est pas Desjardins que j'ai eu en 2022. J'en ai eu 2 collés. On en a eu un avec Alus Canada, puis on a eu un avec Desjardins pour le projet, là. Agro-environnemental dans le programme agro-responsable, quelque chose comme ça, qui était commandité par Desjardins.
Okay.
Tout pour nos efforts par rapport à ça. Puis nous autres, ça fait partie de notre ADN maintenant pour avoir une ferme qui, justement, comme je disais tantôt, qui est à l'avant-garde parce qu'il y a beaucoup d'innovation là-dedans. Puis il y a plein d'agriculteurs, c'est ça qui est le fun. Il y a de plus en plus d'agriculteurs, puis c'est malheureux parce que c'est pas encore assez connu. À chaque fois qu'on peut au moins le partager, ces réseaux sociaux, à chacun de notre bord, on a toujours peur comme agriculteur de « Ah, je vais me vanter, me mettre ça », mais on a avantage à tout s'en vanter parce que les consommateurs qui connaissent moins l'agriculture vont voir passer ça, puis ça va les intéresser parce que vous le savez tous, hein, sur nos profils, là, tous ceux qui nous likent, là, il y a 99% du monde, c'est tout du monde qui connaissent le système.
Ouais.
C'est tous des agriculteurs. Fait que c'est quand tu en vois un qui n'est pas ton follower normal, que c'est une personne... Fait que chacun, dans notre petit réseau à chaque, il y a tout le temps peut-être 2-3 personnes du réseau plus citadin qui peuvent liker. C'est de là l'importance que quand quelqu'un fait quelque chose, moi, quand j'en vois un qui a fait de quoi de bien, je le partage sur les médias sociaux tout le temps. L'agro-environnement, il en fait son affaire. Tu sais, je me suis fait un petit slogan. Tu sais, il s'en est occupé, il en prend en charge pour montrer aux gens qu'on n'est pas... On n'a pas les deux yeux fermés en train de tout bouleverser ou tout détruire autour de nous autres. Dans le fond... On s'en occupe de notre nature autour de nos campagnes. Là. Je pense que c'est les agriculteurs qui sont là, puis les campagnes sont belles. Là.
Le gang-pay, il est là. Ouais. Si on serait juste là à scraper les terres, on serait plus rentable.
Moi, je trouve que c'est extrêmement important de valoriser ça, puis de vulgariser ça, puis d'en être fier, de ne pas gêner de le dire. Parce que c'est quand quelqu'un m'accroche à quelque part, toi, qu'est-ce que tu as fait? C'était fait dans les dernières années, tu sais. Des fois, la réponse, ça fait cric, cric, cric. Il n'y a rien qui revient. Mais ça lui fait comprendre un peu les efforts qu'on a à faire sur une ferme aujourd'hui pour être capable de se nourrir, d'avoir une ferme qui a de capacité de nourrir les citoyens. Puis en même temps, on est rendu qu'on s'occupe de nourrir les abeilles, puis les poissons, puis tout ce qui tourne autour. Fait que, tu sais, notre éventail de gardiens de zoo, là, il est rendu large. C'est assez large.
C'est bien dit, ça. Isabelle, on va rentrer dans le vif du sujet. Agri-Réussite, c'est quoi son rôle? Qu'est-ce que ça fait, ça, à l'année longue?
En fond, Agri-Réussite, c'est de l'accompagnement en transfert d'entreprise volet humain. Fait que, dans le fond, j'accompagne autant la relève que le CEDEN d'établir les discussions pour le transfert, de faire un plan de transfert dans une ligne, un échéancier, une ligne de temps donnée. Puis c'est aussi la consultation des fois avec les enfants du Cédant qui sont pas sur la ferme pour essayer de voir une sorte d'équité. Des fois, on peut pas être égal envers les enfants, mais de bâtir une forme d'équité. Puis, évaluer aussi la relève si elle est apte à prendre la relève, tu sais.
Ouais, OK.
Fait que c'est tout un défi, tu sais. Une agriculture, c'est une passion, c'est un mode de vie. Fait que, bien s'assurer que notre relève est prête. Fait qu'en gros, c'est beaucoup de l'accompagnement du transfert. Et aussi, il y a le côté coaching de leadership qui se veut plus des fois dans des situations ponctuelles, que ça essaye gérer son stress, ses émotions, résoudre des conflits entre actionnaires ou avec des employés sur la ferme, accroître sa confiance en soi, être capable de parler avec plus de diplomatie puis de tact.
Okay, parce qu'on sait qu'on est tout bon pour communiquer les agriculteurs.
Ouais, c'est,
sincèrement.
Chaque fois qu'il y a un problème, là, on va se voir, on communique. Ouais, c'est
souvent rendu triste quand que tu dis, tu sais, les gens, ils se croisent sur une ferme puis on prend notre famille pour acquis puis ben, c'est, écoute, va donc mettre le tracteur pour le sud Jésus ou va déplacer à 56 parce qu'elle va veiller, tu sais. Le bonjour, comment ça va, faire attention à l'autre.
Bon
ça,
matin.
Ça se fait pas. C'est super. Pratiquement pas, en tout cas. Fait que, tu sais, il y a toute une culture à intégrer ces fermes pour garder cette harmonie-là. Fait que, c'est ça, le coaching, c'est vraiment plus des situations ponctuelles de crise ou, tu sais, de processus de changement que j'accompagne la personne à faire évoluer. Parce que, dans le fond, toutes les personnes y ont les réponses en dedans d'eux. C'est juste de, par des questions, un cheminement, ben l'amener à réfléchir à ses propres solutions. Parce que souvent aussi, quand on est dans un problème, ben on a le nez vis-à-vis l'arbre, hein? On voit plus la forêt, on voit pas les possibilités, on voit juste notre situation. Moi, je les aide à prendre du recul. Oups, comment tu pourrais faire autrement? Puis c'est très puissant. Il faut faire confiance au processus, mais la personne elle va elle-même trouver ses propres solutions, puis ça va être beaucoup plus, gratifiant et ça va être beaucoup plus efficace si ça vient de la personne. T'sais.
Ouais, c'est ça.
Fait que en gros c'est ça. Puis des fois animation de réunions de famille. Dans un dossier, j'ai fait une réunion d'après-semis. On va en faire une avant les récoltes. J'essaie d'être sûr que l'harmonie reste, que ça se passe bien, de remettre les bases. Dans ce temps-là, je m'amuse à avoir un bâton de la parole. Fait que, tu sais, la personne doit parler seulement si elle s'exprime avec ses émotions et avec des faits, puis elle n'est pas dans l'accusation. Puis si la chicane veut pogner, ben si tu peux pas parler, tu n'as pas le bâton de la parole. Fait que c'est tout ça. Fait que c'est varié, mais en même temps, ça reste la communication puis sur l'humain. Puis, je vais rebondir un peu sur ce que Paul a dit, tu sais, que tu es très proactif dans tes champs, tu as été dans une variété de cultures, tu as pris le lead. Faut que nos fermes, faut que nos gestionnaires prennent plus le lead sur la communication, sur la ferme.
Ouais.
Autant qu'ils mettent du temps à soigner l'agro-environnement, soigner le champ. Mettez du temps dans vos relations. Le capital humain, c'est la principale ressource.
Oui. C'est ça, c'est... On est plus habitué à s'ouvrir avec nos amis qu'avec nos parents, avec nos frères, nos sœurs. On dirait que, je sais pas, c'est comme un cliché quasiment de s'ouvrir. Puis,
Ben définitivement, quand je dis une famille est probablement plus acquis, parce que, tu sais, veut pas, il y a une proximité, il y a... Puis il y a souvent tous nos jugements de perception, tu sais. Moi je dis souvent, mais toi tu vois le monde avec tes lunettes, je sais pas moi vertes, puis l'autre il voit avec ses lunettes roses. Tu sais, la perception de la personne est pas la même.
Ouais.
Tu sais, ça c'est le cédant ou la relève ou ça c'est ses besoins sont pas les mêmes, il est pas en même étape de vie, il est dans ses jugements. Fait que les non-dits là, ça détruit les familles parce que là tu t'accumules.
Ouais.
Tu sais, moi je me dis toujours bon, tu as une petite garnotte dans ton soulier, tu peux marcher pareil, c'est un peu désagréable. Mais à un moment donné, si tu en as 5-6 garnottes, tu as un gros caillou, ben là tu arrêtes de marcher puis ça explose. Le volcan se passe, c'est là que les conflits arrivent. Puis là ben nous autres comme conseillers puis intervenants, si vous nous appelez puis il y a le volcan fait éruption là, on n'est pas capable de ramener la situation hein, tu sais,
il faut
prévenir, puis il faut instaurer des bonnes habitudes de communication, tu sais. Fait que c'est ça. Je dis souvent les gens, j'aime faire la comparaison vu que je viens du domaine financier. Tu sais, les gens une fois par année vont voir le comptable, font les états financiers, dressent le portrait de la ferme au niveau bon, des dépenses, les bilans, comment il reste d'argent, mais pourquoi pas une fois par année dresser des états de la communication sur l'entreprise. Comment ça se passe avec les membres de ma famille? Comment ça se passe avec mes employés? Je suis capable d'y retenir? je suis heureux de voir mon frère à l'étable ou bien j'ai juste envie de me sauver en courant dans le champ, tu sais. Fait que, je pense qu'une fois par année, il se prend le temps de se statuer puis de mettre des bonnes procédures en place pour maintenir cette harmonie-là. Parce que c'est le plus gros des enjeux. J'aime bien répéter cette statistique-là. Tu sais, on dit 85 % des fermes ne verront pas la troisième génération. Mais sur le 85 %, 95 % du 85 %, c'est lié à des enjeux humains, des conflits, des tensions, puis les fermes ont éclaté. Puis, tu sais,
95 % du 85 %, ouais, c'est énorme.
C'est, ils font que les fermes ne passeront pas la troisième génération, c'est des enjeux de conflit, des enjeux de
tabarouette. Puis c'est quoi tu parles d'enjeux, c'est quoi les principaux enjeux qu'on voit dans un transfert de ferme?
Il y a beaucoup l'enjeu de la communication. Il y a l'enjeu que à base, la relève doit bien se connaître, établir, encore là, je vais faire une petite comparaison, on aime ça en coaching, faire des comparaisons. La relève, moi, je lui conseille toutes de faire un bilan personnel. C'est quoi tes points forts? C'est quoi tes faiblesses à travailler? Puis qu'est-ce que tu vas faire comme plan de développement pour aller améliorer ces faiblesses-là ou aller chercher des personnes clés qui vont combler ces lacunes-là? Fait que ça, c'est une chose pour avoir une bonne relève, puis bien se connaître. Le CNL, lui, de son côté, il faut bien qu'il se connaisse. J'en parlais avec Paul tantôt, il commence à penser éventuellement à son transfert. Ben, tu sais, c'est quoi, moi, mes passions? C'est quoi mes hobbies? Parce que cette étape de vie-là, elle va me faire changer. Je serai plus actif autant qu'avant. Je travaillerai plus 80 heures semaine sur mon entreprise. C'est quoi qui va occuper mon temps? Tu sais, fait que commencer à se préparer. Puis, tu sais, un bon transfert d'entreprise, là, c'est de 5 ans à 7 ans. D'un, il y a toute cette réflexion-là qui doit s'amorcer. Et ensuite, ben, comme vous le savez, il y a tout ce qui est professionnel, tu sais, fiscaliste, comptable, c'est très long. Mais si vous n'avez pas amorcé cette réflexion-là, puis vous ne savez pas comment faire votre transfert, ben vous allez arriver chez le comptable, chez le fiscaliste, puis il va dire, ben retourne faire tes devoirs. Moi, je peux te suggérer des stratégies fiscales, mais c'est pas moi qui va te dire comment séparer la firme avec tes enfants, comment faire le processus au niveau du transfert des connaissances, transfert des pouvoirs, puis transfert des actifs. Fait que, tu sais, puis souvent le cédant, il a besoin d'accompagnement parce que c'est beaucoup son identité, la ferme. Ouais, c'est toute sa vie. Tu sais,
j'ai toujours fait ça.
Il l'a vu grandir, c'est sa passion. Fait que, tu sais, il va avoir besoin des fois de, comment je te dirais, d'un petit peu d'aide, de direction pour se dire, ok, c'est quoi je me refais comme vie, hobby, puis c'est quoi je retrouve, puis comment aussi je fais pour pas prendre le contrôle de la ferme, faire de la place à ma relève là. Parce que, tu sais, ça, excusez le terme anglais, là, l'angliciste, c'est un deal breaker, là. Le jeune qui est sur la ferme puis qui a pas de plan de transfert, le père a cédé 20 % des actions, mais, tu sais, on est rendu 20 ans plus tard puis il y a encore 20 % des actions. Tu sais, fait que, à un moment donné, le jeune va se décourager, il va partir de la ferme, ouais. Puis le papa ou la maman va se ramasser avec son entreprise. Fait que, tu sais, bâtir un plan de transfert, le réaliser, le respecter, ben, tu sais, c'est ça. Je l'amène tout ça dans ces discussions-là. Puis après ça, ben une harmonie de communication, mettre en place des bonnes habitudes de communication. C'est-tu une réunion une fois par mois où qu'on ose dire les choses de la bonne façon, mais qu'on commence pas à accumuler des fausses perceptions puis commencer ben à se dire, ben je sais pas, moi, ma belle-sœur, est-tu fatigante? Elle fait jamais rien. J'ai avoué tout le temps chez eux. Elle fait son gazon au lieu de venir à la ferme. Tu sais, définissez vos attentes, dites-les poliment, puis maintenez ce climat-là de communication en ayant un respect.
Oui, le respect à la base.
Oui, puis être capable après ça de se retrouver à Noël puis de manger une dinde en famille. Ouais. Parce que c'est un peu décevant de voir qu'il y a tellement de tensions puis de chicanes que les familles éclatent. Puis bon, les parents qui me disent, ben moi, je ne vois plus mes petits-enfants, c'est la chicane est pognée. Fait que,
c'est triste, ça.
Tu voulais pas choquer pour un détail, puis finalement, mais l'accumulation fait que
oui,
ça explose.
Puis question de perception aussi, tu sais.
Oui, c'est ça. Ouais. Mais tout le monde est différent. Là. Tu parlais de lunettes vertes, lunettes roses. Là. Tout le monde voit les affaires
tout le monde
de façon différente.
Son bassin d'éducation qu'on connaît pas. On sait pas qu'est-ce qu'il vit. Tu sais, à un moment donné, je coachais une relève. Puis elle me dit, tu sais, moi, mon père, la relation s'est brisée. Ça fait 5 ans qu'on travaille ensemble sur la ferme. Elle dit, j'y dis pas bonjour. Elle dit, j'ai même pas le goût de le voir dans les célébrations de famille et ces choses-là. Puis on a creusé, on est revenu dans le passé, comment ça s'avait installé, cette habitude-là, puis comment qu'elle abordait son père. Parce que le seul acteur de changement, c'est nous-mêmes. Hein. On peut pas faire changer l'autre. On peut juste se changer nous-mêmes. Fait que, tu sais, j'ai dit à Jeune Relève, j'ai dit, comment que tu pourrais faire pour essayer de revoir ça autrement? Puis c'est niaiseux, le bonjour, comment ça va? Mais elle a commencé à dire, puis là, ça a donné de l'ouverture à son père. Oups, il y a un sourire qui est revenu. Oups, après ça, il y a un souper de famille à y été, puis c'était plus agréable. Fait que, tu sais, des petites choses qu'il faut initier pour garder ce climat-là vivant, tu sais. Ils mettent de l'engrais, ben ils mettent pas d'engrais, tu mets... T'améliores tes champs, tu leur donnes de l'amour, ben il faut mettre de l'amour dans nos communications, ça, c'est primordial. Le capital humain est très important.
Ouais.
Fait que, comme Isabelle l'a dit, la communication est très importante. Comment tu fais avec ton frère pour porter la même couleur de lunettes?
Justement, on n'a pas même couleur
de lunettes. C'est bon.
Non, on est vraiment différents. On se complète, dans le fond.
OK.
On est, tu sais, il y en a, on dit feu pilo, là. Pas parce qu'on chicane, mais on... Exemple, quand j'étais plus jeune, moi, j'étais le pas bon de la gang par rapport aux équipements. Mon frère a toujours été plus rapide là-dessus. Fait que c'est sûr que mon frère, dans le temps que mon père, le bout qui était là, même si on était quand même jeune, on avait des jobs à faire. Mon frère, c'était tout le temps le prioritaire pour aller sur la nouvelle, entre guillemets, machine.
OK, ouais.
Moi, mon père m'envoyait avec ma mère. Fait que m'envoyait traire les vaches. Fait que... Puis après, quand mon père était plus là, ben à un moment donné, ben c'est continué. Ça, mon frère est devenu comme le père. Fait que les nouvelles jobs, les grosses machines, le semoir, puis tout, mais Paul, lui, faisait le vibro puis les petites patentes alentour. Mais c'est ça qui a fait qu'à un moment donné, ben moi, j'ai pogné ce qui restait. Là. Je me suis lancé dans les chiffres, dans les produits, dans les champs, dans les coûts de production, puis ces patentes-là. C'est ça qui a fait qu'à un moment donné, lui, il a gardé le volet beaucoup, tout ce qui est fonctionnel, réparation au champ, les machines, les bâtiments, etc. Je participe, mais moi, j'ai comme pogné un peu le volet... Tout le volet administratif, les coûts de production, ces choses-là. Puis après ça, ben, ça a tout le temps été un peu comme ça. Fait qu'on a suivi des formations, les mêmes formations en mécanique. Puis lui, il est fort dans la moitié du cours d'un bord, puis moi, je suis fort dans l'autre moitié. Fait qu'à un moment donné, là, Pierre, fais ça, moi, m'a fait l'autre bout. Ça va finir que le morceau va se tenir, mais qu'on finisse la job dans une semaine. C'est un peu de même. Fait que on est vraiment. Puis humainement, on n'a pas non plus le même. Si là, on le voit, là, on le sait. Là. À un moment donné, on peut t'appeler Isabelle aussi, là, mais tu sais, on n'est pas rendu à la même place dans notre vie de dire, là, je suis prêt à lever un pied, le pied un peu, je suis prêt à laisser de la place, je suis prêt à... Bon, ben moi, je vois ça d'une manière, on s'en parle un peu, lui, il voit ça d'une autre manière. Là, on essaie de trouver quelque chose qui va fitter pour les deux, mais, tu sais, on est comme flottant, tu sais, on essaie de faire de quoi qui va plaire aux deux. Mais aussi, il faut que ça fitte pour le suivi de l'entreprise. Fait que, c'est comme elle dit, tu sais, c'est beaucoup d'ajustements puis de compréhension de où ce qu'on est, puis tu es prêt à aller où. Tu sais, par rapport à ta blonde, as-tu pris sa retraite? Moi, la mienne, à la population. Ouais. Toutes ces choses-là, quand tu arrives à ce. Quand tu as 40, 30, au début, c'est les enfants, mais après ça, là, on roule, on a tous nos enfants, on est dans le même bille, toute la gang, là. Quand tu arrives à quelque part que là, oups, il y en a un, la retraite, elle s'en vient plus vite, l'autre un peu moins vite. C'est tous ces petits ajustements-là qui sont à valider. Mais là, quand on dit qu'on est en réflexion, c'est dans ce sens-là, on dit, gars, mais on aime ça, là, on capote là-dessus, là, on en manque. Nous autres, moi, je ne me vois pas arrêter d'être agriculteur. Je vais toujours en être un, sauf que je me suis déjà rentré dans la tête de me dire, je vais le faire, mais d'une différente façon. Je vais accompagner. Je n'irai pas critiquer au-dessus de l'oreille de celui qui va faire la job. Quand je vais avoir. Moi, je dis tout le temps, ça me prend quelqu'un qui peut me mettre dehors du bureau. Le matin, il va en avoir un qui va être capable de me sortir. Je vais me libérer d'une partie de toute la pression, gestion, etc. Je vais y faire confiance, mais l'épauler. Je vais lui dire, moi, je verrai ça de même. Mais si c'est lui qui a le lead, moi, je vais aller ramasser des noisettes, ses brise-vent, puis aller faire mes bébelles, mais être bien avec mon chien, va me promener avec mon quatre roues. Si tout roule, c'est ça la façon que je me vois de moi-même, c'est je vais continuer à. Tu sais, mon idée, tout le côté vulgarisation puis partage de connaissances que je fais présentement, ça s'est fait tout par accident. Tu sais, j'ai été longtemps président d'une association de mise en marché. Dans le temps, c'était des forums sur Internet. À un moment donné, j'étais actif pas mal là-dedans. Le bulletin des agriculteurs m'a approché. J'avais fait déjà quelques petites conférences, c'était là. Mais à un moment donné, le volet communication puis vulgarisation du métier, j'aime bien ça. Un petit peu d'enseignement au travers de ça. Fait que moi, je me vois là. J'ai autant d'activités, je pense, quand je vais arrêter de passer le vibro puis à pulvériser mes champs, de prévus qui vont toucher l'agriculture que ce que je fais présentement. Fait que quelque part, tu sais, je me dis tranquillement, pas vite, puis je suis pas prête. Ça fait 5 ans que je dis qu'il me reste 15. Là, c'est temps qu'on a des petits-enfants, on dit hey, on va t'en faire encore plus pour espérer, mais tu sais, je peux pas. T'as l'air qui en a parlé, mais Il faut que tu aimes ça. Fait que j'ai peut-être pas eu le temps tant que ça avec mes jeunes quand j'étais endetté à côté puis que j'avais des fonds de roulement à faire à tous les mois pour passer ma marge de crédit parce que je mettais à côté aux gosses comme tous les jeunes qui commencent. Même à l'époque, si c'était moins cher, il y a eu des refinancements, il y a eu des réajustements. Puis à un moment donné, j'étais allé au crédit. Je le savais, là, quand j'étais voir le gars financier, j'avais un bon monsieur puis tout, mais j'avais parlé à mon représentant puis j'avais pas trois chances, là. J'avais pas trois balles. Tu sais, la marge de crédit, là, était à côté, mais toute cette pression-là qu'on prend quand on est jeune, ben la famille en souffre un peu à côté. Tes enfants t'en occupent, mais t'es à moitié mort, tu t'endors pendant que tu joues au tracteur avec. Fait que là, je me disais, quand je vais être grand-père, ben je vais m'occuper de mes petits-enfants. Je le fais, mais il faut que je me force. Fait que je me dis, gars, je l'ai dit, mais là, il faut que je le fasse, c'est important. Fait que, tu sais, l'histoire du petit vidéo des vers de terre, tu sais, j'ai même pas eu le temps de faire ça avec mes enfants dans le temps. Fait que je l'ai fait avec mon petit-fils, t'sais. Fait que il y a un transfert. Puis ça, je dis, quand les jeunes viennent chez nous, les jeunes de l'ITO, les affaires-là, je dis tout le temps, choisissez dans quoi vous allez vous embarquer. Puis soyez bien à l'aise, puis essayez. Tu sais, aujourd'hui, je pense que les jeunes, vous avez plus de conscience par rapport à l'effort que vos conjointes vont avoir à prendre ou que vos enfants vont subir quand la pression financière puis la pression de réussite est tellement haute que tu es dédié à ça. Tu te lèves le matin, tu penses à ça, puis tu t'en vas trois jours en vacances avec une journée ou deux de zoo. Pendant que tu es au zoo, tu es en train de penser à l'arroseuse qui s'en vient, puis l'autre. Tout ça, on l'a vécu. Fait qu'aujourd'hui, je me dis, ma relève dans le futur, j'aimerais trouver une façon qui au moins passe un peu à côté de ça. T'sais, que je sois capable assez des épaulés pour qu'ils soient capables d'avoir une vie peut-être plus social que ce que j'ai réussi à faire, social ou même familial, ce que j'ai réussi à faire. Fait que c'est un constat qu'on a. Là. Nous autres, on avait des croûtes à manger, on avait des défis personnels pour mon frère à réussir. T'sais, le nombre de fois qu'on s'est fait dire qu'on ne fera pas long. Une madame en 76, là, les agricultrices n'existaient pas avec deux jeunes de 13-14 ans.
Ouais.
Avec une terre, tu peux savoir qu'il y avait bien du monde qui était prêt à nous acheter, pas nécessairement nous aider.
Ouais,
fait qu'on a tout juste. Aujourd'hui, je le réalise, mais un genre de ressenti d'imposteur.
Okay.
On a tout le temps voulu démontrer qu'on serait capable et qu'on va réussir.
Mm-hmm.
Ça, c'est tout le temps resté. Tu sais, quand je suis allé pour m'inscrire à mon ITA, mon orienteur, j'avais des bonnes notes parce que je me forçais pour avoir des bonnes notes pour entrer à l'ITA. Il exigeait chimie, physique, avec des bonnes notes parce que dans ce temps-là, il n'y avait pas beaucoup d'écoles d'agriculture. Il y en avait 300 inscrits, il en prenait 100. Mais tu sais, tu dis ça à ton orienteur, puis ton orienteur, il dit, « Ouais, mais tu sais, avec les notes que tu as, tu pourrais espérer aller dans tel domaine, il te pitche ça, tu sais. Ah non, moi, j'aime ça faire ça, tu sais. Ton chum, quand tu te forces dans ton cours de chimie, il dit, « Ah, Paul, tabarnak, tu vas passer, t'en vas un cours d'agriculture, comme si je m'en allais si je sais pas, ça, moi, racler des feuilles sur le bord d'un terrain. Ah, t'en vas en agriculture, ils vont. » Mais tu sais, c'est pas méchant, mais quand t'es jeune, puis tu choisis ça, puis tu te promènes, là, tu le dis pas que tu t'en vas en agriculture quand tu vas creuser au bord sur le coup, là, en partant. Tu dis pas que je suis un farmeur, tu t'en rends pas que ça paraisse trop en partant, tu sais, pour trouver quelqu'un, parce que à l'époque, peut-être même encore aujourd'hui, là, je suis rendu à l'âge que je m'en aperçois plus, ben, je suis rendu trop vieux, je suis intéressant, mais tu sais, le côté, là, la vision que les gens ont de ton métier, fait que ça, c'est tout le temps resté. Puis j'étais tout le temps à mon frère, tu sais, regarde, un coup, j'avais 12 enfants, il y en avait un, j'en ai un dans ma gang qui était un peu. Ben, mon gars, il était pas mal, ben en viro. Puis à un moment donné, j'avais dit, regarde, Fred, on s'est fait brosser les agriculteurs dans les années 2000, fin 90, début 2000, là, on était des pas bons, puis les gars, ça a commencé par la crise du porc, après ça, les pesticides dans l'eau, etc. Puis nous autres, on prenait ça dur, puis on n'en parlait pas, on fermait notre gueule. À un moment donné, il dit, on va en faire la job. Puis dans 5-10 ans, là, on va lui dire, garde, on a fait ça. Puis quand je parle de mes choses environnementales, je le sais, il y a des agriculteurs qui me disent, ouais, mais Paul, ça coûte cher, c'est des petites patentes à gaz, des patentes. Mais j'ai dit, sais-tu quoi? On est fiers, les agriculteurs. On est brillants bien plus que bien du monde en industrie. C'est juste parce qu'on est trop gêné de le dire. Dis-moi, j'ai dit, je vais le faire. Puis quand je vais l'avoir fait, tu peux-tu savoir quand le gars du Agriculture Canada m'a dit qu'on réduisait nos gaz à effet de serre 32 % qu'on avait réduit telle affaire, puis notre matière organique, on captait, etc. Je me promenais sur les médias sociaux, puis à tout coup qu'il y avait quelqu'un qui parlait des gaz à effet de serre, j'étais, ah, nous autres, on l'a réussi, ça n'a pas coûté une scène, il fait sur mon bras. J'ai réduit 32 %. Je dis au ministre de l'Agriculture, ça va peut-être nous donner un petit coup de pouce. Vous voulez donner ça pour l'industrie pour 2030? Ouais. Nous autres, on est déjà en avant de ce que vous espérez, puis on l'a fait. Puis sais-tu quoi? Je suis juste un farmer, un pas dedans. Tu sais, un gars pas bon, là, pas à l'école. Non, mais ça, ce sentiment-là, il a fait que dans notre processus d'apprentissage, on est allé des fois bien plus loin que ce qu'on était même capable de faire. Moi, j'ai un défaut. Des fois, je vais trop loin, trop vite. J'ai chanceux. Tout à l'heure, je t'ai dit qu'on t'a feu pilot. Ouais. Mais mon frère, lui, il a ce don-là, des fois, de me remettre à ma place. Il dit, pas là, 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 on va trop par là. Là, là des fois, OK, mais je t'ai tué. Fait que je vais arrêter. On va solider les affaires, consolider, on va se rajuster. Puis après ça, on va revenir sur la même track. Ah, mais ouais. C'est un peu ça. Mais c'est tout ce vécu-là que je suis capable de aujourd'hui de réaliser. Mais à l'époque, je n'étais pas capable de le nommer ou le sentir. Puis ça, je l'ai appris pour une entrevue X, là, j'ai perdu les pédales, puis je me suis mis à broyer comme un veau avec un autre. Puis là, j'avais tout sorti mes tripes à la table. Puis après ça, je me suis dit, ah, c'est bon, là, j'avais à m'abroyer de ma vie, moi, ça vient de où, ça, cette petite patente-là? Puis je me suis mis à gratter tranquillement, à me questionner, à regarder pourquoi je suis là, pourquoi j'ai fait ça, c'est quoi? C'est-tu vraiment les bonnes raisons? Enfin, je me suis un peu recentré dans... Puis je le sais que j'ai ce défi-là, mais en même temps, j'ai la passion qui est collée dessus. Fait que, tu sais, ça, mais ça m'a guidé. Puis ça guide le profil de ferme qu'on a aujourd'hui. C'est une ferme qu'on se plante, puis on n'est pas gêné. Tu sais, on fait des parcelles, on manque notre coup. Nos terres sont toutes au bord du chemin. Ça, on se plante, on le sait. Puis mes chums me le disent. Ouais, c'est ça fait là, ouais, c'est ça fait là, ça, il nous manque pas.
Toute la rance,
mais, tu sais, c'est trippant être agriculteur. C'est un beau défi. Puis les gens, les agriculteurs, ils ont de la passion. C'est pour ça, des fois aussi, qu'on déborde. Puis qu'on a besoin de se faire coacher, de se faire réaligner, parce qu'à un moment donné, on est tellement rentré dans le collimateur là, qu'il n'y a rien qui va nous arrêter. Puis là, on va écraser quelques petites crottes un peu ici et là. On va froisser des gens, on va frustrer nos enfants ou des affaires de même, parce que là, c'est juste, ça devient comme une vision tunnel. T'es plugué sur la ferme, là, puis tu dis, hey, c'est pas vrai que ma voix canée. Puis qu'un tel, il va avoir ma terre. Ça, je te garantis que quand tu as cette image-là dans la tête, le lendemain matin, tu n'as pas besoin d'avoir le cadran pour te réveiller.
Ah non, ça, c'est...
Salut.
C'est un bon truc, c'est un bon truc.
Ne manquez pas la suite lors du prochain épisode. On se retrouve dans 2 semaines pour la finale de l'Expo Champ. Bonne récolte.